With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Faut-il vraiment s'acharner à vouloir courir et progresser toute l'année, y compris en cette saison? C'est la question que je me pose et nous allons en parler dans cet épisode. Allez, c'est parti, tout de suite. Bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de lifestyle sportif, de mode de vie, de comment nous nous sentons mieux grâce à la course à pied, comment nous progressons, comment nous découvrons aussi de nouvelles choses. Voilà, tout simplement de nouvelles choses, parce que nous en apprenons tout le temps. Et c'est quelqu'un disait l'autre jour dans le Hamster Running Club que finalement la course à pied est un domaine insondable un petit peu. Il y a tellement de choses à apprendre, et c'est ce que je voudrais vous faire partager aussi dans cet épisode-là, dans ce... dans cet épisode qui clôture la saison 2. Oui, qui clôture la saison 2 de Kilomètre 42. Alors, je dois vous le dire tout de suite, hein, attention, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là la semaine prochaine. Non. Ça veut juste dire qu'on va changer. Je vais changer la numérotation des épisodes. On va basculer tous ensemble sur la saison 3 et je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette saison 2, elle se termine là, aujourd'hui, en même temps que ma saison d'entraînement s'arrête. Voilà, tout simplement, ma saison d'entraînement s'est arrêtée. Vendredi soir, vendredi dernier, j'ai couru en club, hein, c'était ma dernière séance, et à la fin de la séance, j'ai dit là, bam, top, c'est ma pause annuelle. J'arrête, c'est pause annuelle maintenant, et je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Mais avant, je voudrais vous dire merci. D'abord, merci parce que j'ai reçu cette année beaucoup de messages de soutien, d'encouragement, des commentaires sur Apple Podcast. Alors, par exemple, j'en ai un, c'est de Seb qui me dit « Trouvé par hasard avant une sortie running, j'ai été totalement pris par l'histoire du hamster qui veut courir un marathon et la tournure que prend le podcast, interview, conseil, leçon de vie est encore plus intéressante. » Merci Bertrand. Alors, merci à toi Seb, merci pour ce commentaire et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur Apple Podcast avec des petites notes 5 étoiles. Ça aide le podcast à être découvert. Ça aide plus de gens à découvrir le podcast et moi ça m'encourage, tout comme ce qui m'encourage aussi c'est de voir vos messages, vos stories sur Instagram, vos messages sur Twitter, vos encouragements, vos partages d'épisodes. Si vous écoutez cet épisode où que vous soyez, partagez-le, hein. Vous pouvez mentionner @BertrandSoulier ou le hashtag KM42podcast et puis je repartage aussi tous ces messages-là autour de nous pour faire connaître un petit peu plus notre passion, hein, pour montrer que nous sommes tous heureux de courir tous ensemble les uns et les autres. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je voudrais passer au cœur du sujet, vous raconter une petite histoire. Voilà, une petite histoire, c'est l'histoire de cet épisode de podcast. Au départ, j'avais prévu quelque chose qui était de dire « Je vais faire un épisode » et je l'ai annoncé même, c'est ça le pire, c'est que je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai annoncé que j'allais faire un épisode sur comment bien courir dans cette période du mois de novembre, comment bien courir sur ce début, cet automne et puis le début de l'hiver, avec des conseils, se couvrir, faire attention, prendre sa frontale, mettre des piles, enfin, vous voyez, des choses comme ça. J'avais prévu de faire cet épisode-là parce que c'était une demande, c'est des questions que j'ai eues, et j'ai prévu de faire cet épisode-là aujourd'hui, là, cette semaine-là, pile poil, j'avais prévu de faire cet épisode-là. Et, en fait, au fur et à mesure que je le préparais, je me suis posé une question qui était de dire, mais est-ce que finalement ça a un sens? Est-ce que ça a vraiment un sens, en tout cas pour moi, de courir encore là, sur ce mois de novembre? Est-ce que ça a encore un sens? Non pas sur le fait de courir pour se sentir bien, se sentir mieux, etc. Mais est-ce que mon corps en ce moment, finalement, n'aurait pas besoin d'autre chose? Est-ce que mon esprit n'aurait pas besoin d'autre chose? Et quand j'ai réfléchi à ça, vous voyez, j'ai réfléchi à ça quand la semaine dernière, le lundi, en allant courir, en faisant ma sortie longue, une sortie longue, pas très longue, mais courte, etc., que j'ai pas fait le dimanche. J'ai fait une sortie, au départ, j'étais dit, je vais aller courir 1h15, 1h30, puis finalement, j'en ai fait un petit peu moins, parce que je me suis dit, bon, j'en ai assez. Et donc, à un moment donné, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une pause, c'est peut-être pas le moment de vouloir en mettre encore une couche supplémentaire. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cet épisode-là, parce que, d'abord, j'ai ressenti quelque chose qui est important, c'est que après mon trail anniversaire, donc le 4 octobre, mon anniversaire c'était le 2 octobre, le 4 octobre je m'offre un trail de 28 km pour mon anniversaire. Bon, le trail se passe bien. Bon, je sens qu'à la fin, j'ai fait une vidéo sur YouTube, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Il y a un petit événement à la fin, mais il faut vraiment voir la vidéo, je fais le bilan, je le raconte, qui me laisse un peu perplexe hein, sur l'instant, mais qui me laisse aussi beaucoup d'espoir, vous comprendrez en regardant la vidéo. Je me fais d'abord une semaine de pause. C'est-à-dire que j'en parle avec un des coachs que j'ai qui me suit, parce qu'il y a un coach du club et puis il y a un coach à côté pour notamment tout l'aspect mental, et puis on en discute, il me dit « là, tu fais une semaine de pause ». Et puis il m'a dit, j'ai vu que t'as mis des objectifs, etc. Écoute, pour préparer le prochain objectif, c'est bien, ça va être bien pour finir la saison. Tu fais une semaine de pause et après on reprendra sur un cycle d'entraînement. Et donc, j'ai fait une semaine de pause et puis finalement j'ai fait une deuxième semaine de pause parce que il faisait pas très beau, parce que bon, les conditions, le temps, il y avait le temps, mais aussi le temps que j'avais. Par exemple, le mercredi, on prend une grosse averse par la figure, la piste était détrempée, bon, on pouvait pas faire la séance telle qu'on le voulait, etc. Donc moi, je me suis pas super senti. Sur le coup, je me suis dit, voilà, je me sentais pas, voilà. Et quand on se sent pas d'y aller comme ça, il y a un signe, il y a quand même un truc qui se dit, d'habitude, t'as tellement envie d'y aller, là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as pas envie d'y aller? Il y a peut-être un truc que tu dois vraiment un petit peu plus écouter. Et donc, j'ai fait une deuxième semaine de pause, et puis j'ai repris. Donc la semaine dernière, c'est ma reprise. Pour dire, je vais préparer un 10 km qui était le 10 km de la course H à Aubière. Pour ceux qui connaissent Clermont, c'est juste à côté. C'était dans le cadre du Movember. Alors j'en reparlerai d'ailleurs du Movember, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard dans le mois de novembre. Et j'avais prévu de faire cette course-là qui est caritative, hein, pour lutter contre le cancer, pour collecter de l'argent contre le cancer. Donc j'ai prévu de faire cette course-là. Et derrière, je voulais enchaîner sur un cross qui était le 11 novembre, qui est le cross de Beaumont, qui était le premier cross de la saison. Et courir ça avec le club. Et l'an dernier, j'avais fait une vidéo déjà où j'ai expliqué pourquoi je m'étais mis dans le cross et qu'est-ce que ça m'a apporté et comment, à quel point ça m'avait un petit peu manié quand même, hein, soyons clairs. Mais aussi quels étaient les apports. Mais il s'est passé un truc, c'est que ces deux courses ont été annulées. Mais vraiment, les deux ont été annulées. C'est-à-dire que la semaine dernière, bien sûr, on est rentré dans cette période-là où on a maintenant le couvre-feu qui a été étendu à beaucoup plus de régions. Nous, à Clermont, c'était sûr qu'on allait prendre le couvre-feu parce que la maladie se propage, le virus se diffuse beaucoup plus rapidement. Donc, c'était sûr qu'on allait prendre le couvre-feu. Mais les courses, bon, tant qu'elles n'étaient pas annulées, dans ma tête, c'était maintenu, logique. Sauf que la semaine dernière, les deux ont été annulés, reportés. Hein. Alors, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Hein. Ils parlent, par exemple, d'en faire une en virtuel, peut-être, potentiellement, ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis pas très fan des courses virtuelles. Donc, j'avais dit, au pire, de toute façon, mes 12 euros d'inscription à la course tâche, enfin, il y a 10 euros, plus les frais, plus des choses comme ça. Mais c'est dit, de toute façon, bon, qu'ils les gardent, hein, ça ira dans la cagnotte contre le cancer. Moi, je préfère qu'ils les gardent. C'est même pas la peine de faire une course virtuelle. Moi, je faisais cette course-là, pas trop pour le chrono, surtout pour le symbole contre le cancer. Et donc, après, derrière, il y avait le cross, je me suis dit, bon, déjà, on verra comment ça se passe à course tâche. Et puis, mon coach avait dit, bon, écoute, le cross, c'est peut-être pas terrible, il faudrait peut-être faire une pause derrière, peut-être faire une pause, parce que vu ce que tu me racontes sur comment s'est passé ton trail, vu aussi la saison, et puis vu ce qui nous attend derrière, je te conseille de faire une pause. Mais moi, vous savez, je suis un petit peu têtu dans cette histoire-là. Je suis un petit peu têtu. Et je me suis dit, mais non, je vais faire ça, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé par réfléchir. Et je me suis dit, quand même, il y a des petits signes là dont je vous ai parlé. Si ces petits signes s'accumulent, et si en plus, on me dit, ben tiens, tu devrais réfléchir aussi à ça, tu devrais réfléchir à ça, il y a quelque chose qui commençait à me travailler dans la tête. Et ce qui commençait à me travailler dans la tête, c'est que depuis quelque temps, j'ai le sentiment de ne plus progresser. Et j'ai le sentiment, vraiment, et sur le trail, vous voyez, de mon trail anniversaire, le sentiment de ne plus progresser, c'est quoi? C'est le sentiment que la distance de 28 km, je l'avais déjà faite il y a 2 ans, donc je savais que j'étais capable de la faire. Je l'avais faite probablement beaucoup moins vite, hein, en tout cas dans le ressenti, etc. C'était plus compliqué, etc. de le faire à l'époque. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup progressé. C'est-à-dire que j'ai passé des dizaines d'heures sur les chemins, j'ai couru un marathon, j'ai couru un semi-marathon, j'ai fait différents trails, j'ai fait des 5, des 10 km, j'ai fait de la séance de VMA, j'ai fait du gainage, j'ai fait plein de choses. Et j'arrivais à ce stade où où j'ai le sentiment que je n'ai pas plus progressé que ça, ou en tout cas que j'atteins un certain plafond. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je pourrais continuer à m'entraîner comme ça sans progresser plus. Et notamment, par exemple, sur les séances de piste, sur ma VMA, sur le fait que quand on fait de la piste, ben, il y a toujours cette espèce de un petit peu fatigue mentale, vous voyez, quand on arrive sur les répétitions. Donc, par exemple, si on fait, je sais pas, 10 fois 200 mètres, bon, il y a toujours, à un moment donné, on va dire, le 5e, le 6e, le 7e 200 mètres qui sont un petit peu plus compliqués et tout. Et je m'étais dit, je veux progresser là-dessus, et je progresse pas. C'est-à-dire que quand je regarde mes temps, je vois que ça progresse pas, que ça avance pas plus, etc. Donc, j'ai le sentiment que je ne progresse pas. J'ai le sentiment que me rapprocher, vous savez, j'avais parlé de cet objectif de dire comment on se rapproche, j'ai 40 minutes au 10 km, des choses comme ça. J'ai l'impression que non seulement je me rapproche pas, mais que j'ai même tendance à penser que je pourrais m'en éloigner, que cette course tâche, m'aurait peut-être montré que je pouvais m'en éloigner, même si là, j'y allais surtout pour le symbole plutôt que pour le temps, et vraiment, j'y allais vraiment sur le symbole et sur la lutte contre le cancer, donc de donner l'argent à cette cause-là. Et donc, quand je réfléchis à ça, quand je réfléchis à ce palier, quand je réfléchis à ces discussions, quand je regarde un petit peu un point de motivation qui peut être un petit peu compliqué, il faut que je sois honnête avec moi, et je suis sincère avec vous, et je dois être sincère avec moi, c'est le signe qu'à un moment donné, il fallait que je change quelque chose et que je revoie mon organisation. Alors, j'ai regardé ce que j'ai fait cette année, on va dire sur 2019-2020. Comment j'avais organisé 2019-2020? Eh ben, c'était très simple. C'est-à-dire que septembre 2019, bah comme tout le monde, c'est la rentrée scolaire, la reprise du club, etc. On prend l'entraînement, on s'entraîne vraiment à fond, sans trop de vacances, hein, non plus, jusque Noël. Même Noël, on fait pas de pause. Il y a eu les crosses, il y a eu quelques 5, 10 kilomètres, des choses comme ça. Il y a eu quelques trails, voilà, qui étaient programmés, pas programmés, sur lequel, genre, je me rappelle plus trop mon programme de course, mais bref. Il y avait quelques courses comme ça, quelques dossards. Il y a eu ensuite les crosses. Il y a eu 2 crosses avant Noël. Ensuite, juste avant Noël, il y a la corrida. Enfin, entre Noël et Nouvel An, il y a la corrida Saint-Sylvestre. Donc, qui doit être autour du 29 ou 30 décembre, vous voyez, grosso modo. Donc là, ça faisait 7 km et demi, je crois, dans mes souvenirs, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y avait les fêtes de... Enfin, le Nouvel An. On bascule en 2020. 2020, il y a 5 km à Chape, qui est une course de 5 km qui est assez rapide et qui est un peu symbolique. Vous voyez, c'est la course des rois et tout, comme ça. C'est assez sympa de démarrer l'année comme ça. Mais c'est une course qui est très rapide. Et donc là, je m'aligne là-dessus. Et puis ensuite, derrière, le mois de janvier, il passe. Et puis le 14 février, démarrage de quoi? De la préparation marathon pour le marathon d'Albi. Bon, j'ai fait quoi? Un mois de préparation du marathon d'Albi. J'étais plein de bourre quand même, et puis vous connaissez la suite, le confinement, le virus, le confinement, enfin tout ça. Et donc, j'arrête pendant finalement pas loin de 2 mois, et au moment de reprendre, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, bon bah, je pense qu'avec ce confinement, on va pouvoir reprendre en étant plus en forme, en ayant fait une belle pause, etc. Et on va vraiment arriver à avoir des beaux objectifs, on va arriver à courir plus vite, à être mieux, etc. Et ça, vraiment, vous voyez, j'en étais convaincu, et c'est ce qui s'est passé au début. Mais le constat, maintenant qu'on est à l'automne, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré cette pause du confinement, alors que je pensais que j'aurais été en pleine bourre sur une période plus longue, vraiment sur une période plus longue, ben je me retrouve en ce mois d'octobre en étant fatigué, en étant un petit peu usé, en étant un petit peu émoussé, et une fatigue à la fois énergétique et à la fois mentale, psychologique. Et il y a un truc dont je suis certain, c'est que cette année 2020, comme elle se déroule, nous coûte énormément d'énergie, mais vraiment énergie à la fois physique et mentale. Vraiment, elle nous coûte en énergie, elle nous pèse. C'est vivre dans cette incertitude, vivre avec cette peur du virus autour de nous, vivre avec ces mesures, vivre avec cette incertitude que nous avons autour de nous, est fatigant, est épuisant, et ça nous épuise à la fois nerveusement et physiquement. Et c'est logique, et c'est vraiment logique. Et en plus, on est dans l'incertitude sur, bon bien sûr, la fin d'année, on va dire qu'il n'y a plus de course, on sait pas trop comment va se passer 2021, on sait pas trop comment va se passer le virus, on sait pas comment vont se passer les fêtes de fin d'année, et puis il y a un autre truc, c'est ma thèse, c'est comme ça qu'en fait j'en suis arrivé à cet épisode-là, c'est que j'ai commencé à réfléchir différemment et je me suis dit, j'ai une thèse comme ça qui est en train de naître dans ma tête, c'est est-ce que nous essayons finalement de maintenir coûte que coûte notre activité, de la faire de la vitesse, progresser, etc. Est-ce que finalement c'est pas totalement idiot? Est-ce que essayer de maintenir coûte que coûte notre activité, de progresser, de continuer à progresser, de continuer à développer notre VMA au mois de novembre, au mois de décembre, de faire des programmes de VMA là maintenant, là vraiment maintenant, hein, mois de novembre, de mois de décembre, est-ce que c'est pas totalement idiot et contre-productif? Est-ce que finalement nous sommes faits pour arriver à faire ça? Est-ce que humainement nous essayons de le... Est-ce que c'est logique? Voilà, un petit peu, est-ce que c'est logique? Alors, comment réfléchir à ça? Bon, j'ai pris un petit peu ce truc-là, je me suis dit, est-ce que finalement nous serions pas en train d'essayer de nous prendre un petit peu pour Superman, par exemple? Essayer de repousser notre fatigue physique et mentale. Et je dis pas que c'est pas possible, je dis c'est peut-être possible, mais c'est peut-être aussi possiblement trompeur, casse-gueule, vraiment casse-gueule. Peut-être que, en fait, les efforts qu'on ferait maintenant seraient complètement contre-productifs pour la suite de l'année, pour la suite de la saison, pour 2021, voilà. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui me trotte en tête, comme ça, et dans les discussions que j'ai à droite à gauche, quand je fais mes recherches, c'est un truc comme ça qui ça trotte, vous voyez, dans la tête. Est-ce que nous sommes pas aussi en train d'essayer de lutter contre la nature, contre notre nature? Et ça, c'est encore plus fort, vous voyez, cette réflexion-là, c'est qu'en fait, me dire, je pense que physiquement et mentalement, on peut le faire, bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr qu'il y a plein de gens qui le font, bien sûr il y a plein de gens qui ne s'arrêtent jamais. Mais est-ce que finalement, la nature devrait pas nous inciter, notre nature, et se rappeler que nous sommes des animaux. Oui, nous sommes des animaux, qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux, peut-être on peut considérer qu'on a évolué sur certains aspects, mais finalement on reste un être humain, un être animal, un être physique qui vit sur la même planète que les animaux, que les arbres, que les plantes, que les fleurs. Et quand on regarde la nature autour de nous, quand on regarde cette nature-là, est-ce que vous avez l'impression que la nature, elle est en pleine d'énergie, qu'elle va essayer de battre des records en ce moment? Dans notre hémisphère, en tout cas, non, c'est vraiment pas le cas. Est-ce que vous la regardez? Est-ce que vous regardez la tête des arbres en ce moment? Est-ce que vous regardez les fleurs? Est-ce qu'il y a des fruits? Est-ce que... Non. Ben non. Alors, ne faudrait-il tout simplement pas se dire que la nature est extrêmement logique, que c'est un système vivant extrêmement logique, et que nous devrions être un système vivant extrêmement logique, qui comprend, qui vit sur la nature, sur la planète, qui vit dans la nature, sur cette planète-là, que nous avons essayé de dresser cette nature, mais qu'en fait elle nous fait tellement peur parce qu'elle est tellement logique, tellement forte, tellement plus forte que nous, que... au lieu d'essayer de lutter contre et de se dire « Mais non, de toute façon, en ce moment, je peux y aller, c'est pas un problème, là, et tout... » Non. Est-ce que, quelque part... être naturel, courir naturel, parce que j'ai beaucoup parlé de courir naturel, on a parlé du miel, des aliments, on a parlé de la foulée naturelle, on parle beaucoup de naturel, mais est-ce que courir naturel, finalement, ça serait pas de se dire aussi, c'est peut-être le temps de faire comme la nature et de rentrer dans une phase de repos, de rentrer dans une phase plus calme, plus cool, où on reste plus au chaud, où on reste peut-être plus avec ses proches, avec nos amis, enfin nos amis, on peut pas en ce moment, bien sûr, avec le confinement, ça c'est, enfin le confinement, le coronavirus, avec le couvre-feu, on peut pas rester avec nos amis, mais si vous écoutez cet épisode dans 2 ans ou 3 ans, quand tout ça sera fini, bah, nos amis, ça sera valable. Mais en ce moment, avec notre famille, moi, avec ma femme, avec ma fille, est-ce que on devrait pas plutôt se dire, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu hiberner pour revenir un peu plus fort physiquement et mentalement? Et c'est ce que je voudrais vous dire dans cet épisode-là, en fait. C'est le sentiment que j'ai, en fait, c'est que cette année, il faut que j'hiberne un peu. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça, dire mais c'est un peu bizarre cette histoire-là. Bon, après, on n'est pas des marmottes ou des ours, hein, on va pas hiberner pendant tout l'hiver non plus. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que il y a pas des éléments qui nous inciteraient à le faire et qui devraient nous inciter à le faire? Et donc, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai regardé autour de moi, et le constat, c'est que en automne, c'est le ralentissement de la vie. On ralentit, pourquoi? Déjà, on est passé à l'heure d'hiver. Bon, ça devrait être un premier symbole quand même qui devrait nous rappeler quand même que si on passe à l'heure d'hiver, c'est qu'il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil, les jours baissent, la luminosité du soleil baisse, mais la longueur des journées, bien sûr, a baissé, mais la force du soleil, tout a baissé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, on rentre dans 2 mois environ où ça va encore baisser fort. Jusqu'au 21 décembre, ça baisse. Tous les jours, on perd 1 à 2 minutes de soleil, d'ensoleillement, de jour même pas de... Je parle même pas de force du soleil, je parle de durée. Et si on rajoute le fait qu'il y ait des nuages, que ce soit gris, que le soleil par rapport à la position de la Terre, enfin tout ce que vous voulez, c'est la force du soleil, l'ensoleillement, la luminosité que nous avons, elle baisse. Et nous sommes des êtres qui avons besoin de luminosité pour vivre. On a besoin de ça, on est calé là-dessus. On est plus dynamique quand on a plus de luminosité, quand on a plus de soleil, quand on a plus de lumière. Et ça, c'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Le deuxième chose aussi, c'est que ça va baisser encore, jusque donc au 21 décembre, et que il y a aussi les températures qui vont baisser. Il y a aussi, finalement, tout va ralentir. Voilà, tout va ralentir. C'est-à-dire que la nature est en train de ralentir. Et je vais vous donner un exemple qui est clair, hein, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder très loin. Regardez si vous avez un jardin, regardez si vous avez un parc pas très loin, regardez si vous allez courir dans la nature, regardez les arbres. Regardez, est-ce que vous êtes déjà demandé comment fonctionnait un arbre? Comment fonctionne un arbre? Pourquoi est-ce que l'arbre a ses feuilles qui tombent en automne? Est-ce que c'est juste comme ça par pure coquetterie? Est-ce que c'est que les feuilles sont usées, fatiguées? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les feuilles comme ça tombe? Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu comment fonctionne un arbre, il y a un ralentissement chez l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, en fait, il est conscient de quelque chose, il est conscient que ça va se mettre à cailler, et il est conscient qu'il y a un moment donné, il faut qu'il garde son énergie. Et donc, il y a ce qu'on appelle la sève qui va redescendre, hein. Alors, elle va pas redescendre, elle va pas aller se cacher comme ça tout au loin. En fait, l'arbre, il est sûrement plus malin que nous sur cette histoire-là. En fait, à quoi sert l'automne vraiment pour un arbre? Eh ben, c'est que pour la végétation, c'est un moment de repos, vraiment un moment de repos. Et les arbres caducs, c'est-à-dire ceux qui ont des feuilles et qui perdent leurs feuilles, en fait, vont mettre en place les systèmes qui vont permettre de créer les jeunes plants, c'est-à-dire les jeunes plants pour l'an prochain, c'est-à-dire qu'ils commencent à préparer l'année suivante. Ils préparent le printemps. Oui, tout simplement. L'arbre, en fait, va mobiliser toute son énergie pour faire des réserves qui vont s'accumuler dans le tronc et dans les branches. Et en fait, c'est pas une période de floraison, c'est pas là où il va faire ses fruits, mais c'est là où il va préparer les nouvelles fleurs, il va préparer les futurs fruits. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va se ralentir, il y a la descente de sève, c'est-à-dire que au lieu de mettre toute son énergie pour aller nourrir les petites feuilles, aller nourrir les feuilles, aller nourrir des bourgeons, des choses comme ça, non, il met tout au ralenti, tout ce qui est loin d'ailleurs du tronc et des racines, il les met un petit peu au ralenti, c'est pour ça que tout s'arrête. Et donc, il va garder sa sève dans le tronc et dans les racines qui sont protégées par l'écorce et par la terre, donc c'est protégé du froid, et donc il va passer tranquillement l'hiver comme ça, pour se préparer pour la période qui va être la plus faste pour lui. Pourquoi ? Parce que il a besoin du soleil, il a besoin de la lumière pour faire de la sève. Et la sève ensuite, cette sève nourricière, il va pouvoir l'envoyer, avoir de l'énergie pour l'envoyer ensuite vers ses petites feuilles, vers ses bourgeons, vers ce qui va demander beaucoup d'énergie pour pousser. Et donc quand il y aura plus de soleil, plus de lumière, il va pouvoir faire plus de sève, il va être plus énergique, plus dynamique au printemps. Et donc il va pouvoir repartir dans un cycle avec ses feuilles, avec ses fleurs, avec ses bourgeons, etc. Enfin vous voyez, regardez la nature. Et donc finalement... L'homme le sait. Pourquoi ? Parce que le jardinier, il sait que c'est en automne qu'il doit planter les arbres. Il sait que c'est en automne qu'il doit bouger un arbre, le déplacer, le déraciner, le remettre à une nouvelle place, etc. Parce que c'est, il sait que c'est à ce moment-là que l'arbre est dans une période aussi où il prépare la suite. Et donc finalement, on pourrait se dire que nous aussi, c'est peut-être le bon moment, et c'est en tout cas le bon moment pour moi, je crois, de me déraciner de vieilles croyances qui étaient de dire je dois courir tout l'hiver, faire de la vitesse tout l'hiver, aller à fond tout l'hiver, faire tous les crosses, taper tous les crosses, etc. que je peux, parce que ça me faire travailler ma vitesse, développer ma VMA à plein pot, aller faire des séances de nuit sur la piste, dans le froid, dans le brouillard, etc. en point de novembre, même quand je n'ai pas envie. Est-ce que je me déracinerai pas de cette idée-là pour aller explorer une nouvelle idée ? Et c'est ce que je vous dis, voilà pourquoi je fais une pause, voilà pourquoi je rentre en pause. En fait, l'idée de cette pause-là, c'est pas de moi, parce qu'il y a plein de gens qui font des pauses, et je vais vous donner des exemples ensuite, mais ce que j'avais pas compris, moi, dans cette histoire-là, c'est que pourquoi est-ce qu'ils faisaient des pauses ? Est-ce que c'était leur niveau ? Est-ce que c'était qu'ils avaient des séances d'entraînement ? Bah oui, ils font beaucoup plus de kilomètres que moi, mais moi qui cours pas beaucoup, je me disais, j'ai peut-être pas besoin de beaucoup de pauses, etc. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est que nous essayons de tenir coûte que coûte la même activité toute l'année. Toute l'année, on essaie de tenir coûte que coûte la même activité, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit fatigué, qu'on soit pas fatigué, etc. Et en fait, on oublie que nous sommes des humains avant tout et que nous fonctionnons aussi sur le rythme de la nature. Et donc, si la nature ralentit, il faut aussi considérer, il faut peut-être aussi regarder que peut-être que nous aussi, on ralentit. Et peut-être que il est temps aussi de faire une pause physique, psychologique, qui correspond aussi à un ralentissement. Et moi, en ce moment, oui, mon corps ralentit. Par exemple, j'ai besoin de dormir plus. Moi qui me lève à 5 heures du matin toute l'année, j'ai besoin de dormir un tout petit peu plus. Par exemple, ce matin, je me suis levé avec une demi-heure plus tard. Aujourd'hui, je me suis levé une demi-heure plus tard. Et en fait, je vais le faire tout l'hiver. Tout l'hiver, probablement, je vais dormir une heure, peut-être, de plus tous les matins. Avec le couvre-feu, c'était pas possible d'aller courir entre 5h et 6h, parce que j'ai fait des séances de préparation mois de février où j'allais courir à 5h du matin, donc ça c'est pas possible. Donc en plus, même me lever à 5h pour aller courir à 5h30, c'est pas possible, donc ça servira à rien. Donc je pourrais prendre du temps pour travailler, etc. Mais là, mon corps, mon cerveau me dit, là, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de se régénérer et de se rebooster. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous dire, c'est... cette idée-là, vraiment, c'est que à quoi va me servir ma pause et comment je vais l'organiser. Alors déjà, je vais vous donner un petit peu comment je vois les choses, un petit peu un conseil, grosso modo, de comment j'ai imaginé les choses. Le premier truc, c'est que ça fait bien 15 jours, 3 semaines que j'ai commencé à réfléchir à ma saison suivante, à quel cours j'avais envie de faire l'an prochain. Qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais courir, où je voulais courir, etc. Et qu'est-ce qui me faisait envie ou pas. Et en fait, de le faire sans tenir compte des problématiques de virus. Vraiment en se disant, voilà, toutes les mesures qui vont être prises, ça va fonctionner. À partir du mois d'avril, c'est-à-dire dans 6 mois environ, on va considérer que le virus va finir par être réduit à quelque chose. On va souhaiter que ça se passe comme ça, hein, vraiment. Donc on va laisser 6 mois finalement à tout ce bazar pour se résoudre. En partie, je dis pas totalement, parce que moi, je suis dans ma tête, je me dis, bon, on est peut-être parti pour 2 ans, mais qu'en partie, le plus gros va se résoudre, etc., qu'on va pouvoir repartir sur des objectifs un peu de course, etc. Mais déjà, il faut se dire, quels sont les objectifs que je veux avoir ? Qu'ils soient maintenus ou pas, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire l'an prochain ? Donc, quels sont les objectifs que je veux avoir ? Donc, j'ai commencé à regarder. Et moi, vous savez, donc, j'avais dit, une saison de Kilomètre 42 égale un marathon. Cette année, en 2020... Il y aurait dû y avoir le marathon d'Albi. J'avais hésité en me disant, oh, j'aurais bien fait un marathon d'automne peut-être, etc. C'est ce que, quand j'avais invité Antoine de Wilde pour parler du marathon de Nevers, moi, il m'a donné envie de faire le marathon de Nevers. Alors, cette année, c'était trop court. Mais l'an prochain, je me dis, bon, je pourrais faire Albi. J'ai déjà mon dossard parce que 2020 a été repoussé en 2021. Est-ce que je pourrais pas faire le marathon de Nevers s'ils le font en 2021? Ce que je pense, hein, parce que Antoine de Wilde, vous avez vu, c'est quelqu'un qui était quand même très, très motivé, très à fond. Il a quand même réussi à maintenir le seul marathon de la fin de l'année qui a été maintenu, c'est quand même le sien. Et ça, j'avais dit dans l'épisode, j'ai dit, on m'a dit que de toute façon tu serais capable de le maintenir. Et oui, il était capable de le maintenir. Donc c'était incroyable, hein, cet acharnement. Et c'est là où aussi on voit l'esprit. Et puis je me dis, au milieu, il y a un truc. Et là, j'ai une pensée pour des gens comme Stéphane, hein, que j'avais eu dans un... vous savez, qui a couru la Mixtreme à Montreux, etc., qui m'a dit, mais tu me fais enrager quand tu dis que tu peux pas courir des distances plus longues, etc. Et donc, oui, j'ai envie aussi d'allonger un peu la distance et de dire, bah, tiens, je pourrais faire dans cette année peut-être un ou deux marathons, enfin, deux marathons, un au printemps, un à l'automne, et puis au milieu, placer des distances qui ressembleraient peut-être à du trail. Voilà, à du trail. Quelque chose d'un peu dans ce genre-là, mais un trail un peu plus long, un peu plus longue distance. Je sais pas, 50, 60 kilomètres, quelque chose pour voir ça. Voilà. Mais tout en étant assez réaliste dans les choses. C'est-à-dire en disant, je peux pas en placer beaucoup non plus des objectifs, parce que à côté de ça, il y a le travail, parce qu'à côté de ça, il y a la vie de famille, parce qu'il y a l'organisation de la famille, etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc, être réaliste, j'ai placé comme ça, vous voyez, à peu près, je me suis dit, bon, au printemps, 25 avril, marathon d'Albi, fin octobre, il pourrait y avoir un marathon de Nevers, par exemple, et au milieu, dans la période estivale, on pourrait dire quelque chose qui ressemblerait à un trail type 50, 60 kilomètres, mais pourquoi pas un swimrun ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Placer un petit peu comme ça. Et donc, à partir de là, maintenant que j'ai placé ces objectifs-là, je vous invite à faire cet exercice, hein, les placer sur un calendrier, dire qu'est-ce que je veux faire maintenant là-dessus. Et ben tout simplement, il faut que je cale mes pics de forme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en forme à ce moment-là. Ça me sert à rien d'être en forme en janvier, ça me sert à rien d'être en forme en février. Non, il faut que je sois en forme le 25 avril. Autour du 25 avril, cette semaine du 25 avril, dans cette zone-là, vous voyez par exemple pour le marathon d'Albi. Et donc, c'est mon premier pic de forme que je vise, c'est ça. Et donc, maintenant, je rebrousse un petit peu chemin et je me dis, bon, à partir du 25 avril, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je revienne ben, pour être prêt pour une préparation de 10 à 12 semaines. Quelque chose comme ça, hein. Cette année, la préparation, c'était 10 semaines. Bon, on va dire entre 10 et 12 semaines, ça nous amène à début février. On va dire qu'on va... Une belle histoire d'amour avec un marathon, ça va commencer par l'entraînement, préparation autour de la Saint-Valentin. Dans ces zones-là, l'an dernier c'était autour de ça. Pour la Saint-Valentin, on commence à préparer un marathon, une belle histoire d'amour avec le running, ça tombe bien, à la Saint-Valentin, on est en préparation marathon. Disons donc, je suis en préparation à ce moment-là, il me faut, avant de me dire, si je voulais vraiment être en forme à ce moment-là, il faudrait peut-être que je fasse une pause, est-ce qu'il faut que je fasse une petite pause une semaine avant le début de la prépa, etc. Est-ce que c'est bien le bon moment ou pas? Je suis pas certain parce que, d'une part, quand on fait une pause, on sait qu'il faut un retour progressif, et puis il y a pause et pause. Hein. Si c'est une pause de 3 jours ou 4 jours, c'est pas vraiment une pause, hein. c'est juste comme ça, c'est histoire de dire je souffle un peu puis je repars. Non, une pause, dans ma tête, c'est au moins 15 jours, vous voyez, dans cette histoire-là. Et donc, si on fait une pause de 15 jours et qu'on redémarre directement par un programme de préparation marathon qui est un peu important, etc., c'est pas gagné tant gagné que ça. Si on fait une pause plus longue, c'est encore pire, parce qu'il faudrait une pause progressive. Je vous rappelle quand même que le programme de la reprise du coureur, de la clinique du coureur, le programme de reprise de la clinique du coureur, on est plutôt sur un programme 3, 4, 5, 6 semaines de reprise avec de l'alternance entre la course et la marche, c'est ce que j'ai fait après le confinement. D'ailleurs, j'avais un peu grillé, j'étais allé un peu vite sur un truc, j'avais commencé à avoir une douleur au mollet, donc ce qui montre qu'après une pause importante, il faut reprendre progressivement. Donc, partant de ce principe-là, la pause, je pouvais difficilement la faire juste avant la préparation marathon. Il fallait que je l'anticipe un petit peu. Donc, ça commençait déjà à la mettre plutôt autour déjà, on va dire, au mois de janvier. Et puis après, il y avait des questions de dire, mais oui, mais c'est pas tout de faire une pause. C'est-à-dire que pour bien préparer l'année qui vient, pour bien préparer la saison, pour bien préparer ces objectifs-là, moi, il y a quelque chose, un constat que j'ai fait. C'est que je pense que je suis pas assez fort physiquement et mentalement par rapport à ce que je veux faire. Physiquement, par exemple, sur le trail de 28 km, j'ai eu des petites douleurs dans le dos, les lombaires, vous voyez, des choses comme ça. J'ai eu dans une descente des douleurs dans les jambes. Alors pourtant, en descente, Ça, j'ai pas de problème normalement musculairement. Si vous avez vu, si vous regardez mon compte Instagram @BertrandSoulier, vous verrez mes cuisses et mes mollets. C'est pas des petites cuisses, c'est des petits mollets, quoi. Je veux dire que, et pourtant, bah, je sens que on pourrait y mettre un peu plus de force, un peu plus de puissance, un peu plus de développement. Les abdos, toujours mon truc. Il y a le côté physique, aspect physique hein, des abdos, avec ma perte de poids, le ventre un peu qui me reste, etc. Mais il y a aussi la puissance dans les abdos, le gainage, vous voyez tout ça, la force du dos, la force des jambes, la force des fessiers, bon, tous ces aspects-là, ça se prépare comment? Bah, ça se prépare par du gainage, ça se prépare par de la musculation, ça se prépare par la préparation physique générale, reprendre le souffle, reprendre du cardio, avoir un cardio plus développé, etc. Peut-être faire des séances type HIIT, vous voyez, moi j'ai fait du HIIT pendant 2 ans, j'avais énormément progressé grâce au HIIT et grâce aussi au fitboxing, des choses comme ça, donc des activités plus fitness. Et donc, je sais que c'est un bénéfice, mais à quel moment les placer? À quel moment les placer? Et donc, le mieux, ça serait de les placer, non pas en plein pendant la préparation marathon, parce qu'il y a tellement de trucs déjà en bonne surcharge, il faut les placer avant pour justement, être fort au moment où la préparation marathon va débuter, être fort à ce moment-là. Et donc, ensuite, avant la préparation marathon aussi, il y aura reprendre la course, refaire du foncier, avoir l'habitude, refaire l'endurance mentale, etc. Et donc, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, bon, bah, effectivement, la pause, il faut qu'elle soit largement avant le début de la préparation marathon, que j'ai le temps de préparer ça, que j'ai le temps de préparer mon corps. Et puis, en même temps, j'ai réfléchi au truc et tout, je me dis, et ta fraîcheur mentale, ta fraîcheur psychologique, t'en es où là-dedans, dans cette histoire-là? Et je l'ai dit, la semaine dernière, j'étais peut-être pas super motivé pour aller courir, etc., surtout quand il pleuvait. Alors, quand il fait beau, c'est facile. Quand il fait beau, on se dit, oh, allez, je vais me balader sur les chemins, je vais faire une petite séance en endurance mentale, etc. Mais quand il pleut, quand il y a du vent, quand c'était un peu froid, brouillard, etc., et qu'il y avait des tours de piste à faire, c'était un petit peu moins motivant. Donc je me dis, ça, il faut le recharger. Il faut être frais et dispo mentalement. Et donc c'est pour ça que la coupure, ne pas être sous pression constamment aussi, parce qu'on se met une pression de dingue quand on court, on se rend pas compte. On se dit, oui, mais c'est normal, je vais faire ça, ça et ça, mais on fait attention à notre alimentation, on fait attention à notre planning, à notre agenda, à prévoir notre planning, notre agenda, on se met de la pression sur les vêtements, on se met de la pression sur nos objectifs, sur d'y bien y aller, de pas louper les séances, de bien regarder le programme, etc. Enfin, on se met une pression de dingue sur plein de choses. Et si on se libère un petit peu de cette pression-là aussi, on va s'alléger un petit peu l'esprit. Et donc, tout ça, c'est se libérer, être frais et dispo mentalement. Et puis, moi, il y a un truc aussi qui est vrai, c'est que je dois travailler mon mental. C'est-à-dire, je veux avoir du temps aussi pour faire de la méditation axée sur la préparation sportive, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, ça, il faut aussi que j'arrive à le placer. Il faut aussi que j'arrive à placer tous ces trucs-là. Il faut que j'arrive, finalement, quand je vais préparer ce premier marathon, ce premier objectif, je sois fort physiquement dans mon corps, que je me sente fort physiquement dans mon corps, que j'ai confiance en lui, que je l'ai développé, que j'ai préparé tout ça, que je sois bien affûté sur le plan mental et psychologique, en étant à la fois frais et dispo, et prêt aussi d'attaque. Alors, prêt d'attaque, sur le plan mental, hein, c'est pas juste en disant « oui, je suis prêt ». Je sais par expérience que ce qui est super bon, c'est de se dire aussi, pour travailler le mental, il faut aller se mettre dans des efforts sur lesquels on n'est pas forcément très à l'aise. Et bon, c'est sûr qu'il y a des entraînements qui sont bien, mais quand il y a des dossards, si on peut aller chercher quelques dossards, moi par exemple, j'espère qu'en début d'année, on aura, j'espère, la chance d'avoir des dossards type des 5 km, des crosses, des choses comme ça, vous voyez, qu'ils soient là-dedans. Et les 5 km, les crosses, oui, moi je regarde mon planning, je me dis, tiens, du 5 km, oui, il y en a en janvier par exemple, oui, du cross, il y en a quelques-uns sur la fin du mois de janvier, etc. J'ai une petite incertitude sur le fait que je puisse les courir, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai une petite incertitude là-dessus, mais en tout cas, je me dis, si je peux les courir, si je suis physiquement apte à les courir, à les faire, etc., oui, je veux pouvoir les faire et je veux avoir déjà un peu repris, etc., pour être en mesure de le faire. Et donc, quand on ajoute un petit peu tous ces éléments-là, quand on remélange un petit peu tous ces éléments-là, quand on met tout ça, je me dis, ma pause, il faut quelque part que je l'avance, que je sois capable d'attaquer, non pas en me disant, au mois de février, je vais commencer à reprendre l'entraînement pour ensuite préparer le marathon, mais plutôt que, déjà au mois de janvier, j'ai déjà repris. Et donc, en réfléchissant comme ça, il est certain que cette pause-là, c'est pas au moment des fêtes de fin d'année qu'il fallait que je la mette, surtout que c'est pas très reposant, soyons honnêtes, et qu'il fallait que je la fasse à un moment où vraiment je puisse vraiment me reposer, vraiment en profiter, vraiment un moment où il n'y a pas les sollicitations dans tous les sens, etc. Bref, j'ai décidé de l'avancer. Et comme en ce moment, je me sens plus fatigué, que je me sens mentalement plus touché, eh ben c'est le bon moment pour moi de faire la pause maintenant. Et puis je vais vous prendre une dernière image pour vous convaincre de ça. Ça c'est l'image, c'est le coach qui me l'a donnée. C'est celle de l'avion. Si vous avez beau être un avion, si vous êtes, vous pouvez vous considérer comme étant un avion de chasse. Vous êtes un avion, même le plus gros avion, même l'avion le plus rapide ou quoi que ce soit, même un avion qui est ravitaillé en l'air là, hein, par les avec les trucs, etc. Il y a un moment donné, il a besoin de se reposer. Il y a un moment donné, il a besoin de se poser parce que la carlingue, etc., est en train de bouger, etc. Faut serrer les vis, faut vérifier les moteurs. S'il y a plus de kérosène, bon, faut reprendre du kérosène, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand un avion comme ça là, il tourne, il tourne, il tourne. Au bout d'un moment, donc, il va devoir atterrir, c'est-à-dire ralentir, atterrir progressivement, se mettre un petit peu au sol et puis rattaquer, redécoller doucement et puis repartir et retrouver son rythme de croisière. Maintenant, si c'est vous l'avion, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, l'avion, quand il va voler, votre rythme de croisière que vous attendez, c'est quoi ? Ben, moi, par exemple, c'est à fin avril. C'est fin avril, c'est l'été et puis c'est fin de l'année, justement au moment où je veux être présent sur des courses où j'espère les courir plus vite que d'avant, bah, peut-être un record sur mon record sur le marathon, peut-être faire une course dont j'avais jamais idée que je pourrais la faire mais je vais arriver à le faire, peut-être je sais pas, par exemple le swimrun l'an dernier, on a fait un swimrun, bon vous avez écouté les épisodes là-dessus, peut-être faire un swimrun qui soit plus long, aller sur des distances ultra, etc., ce qui veut dire nager 3 fois plus long, ça veut dire faire beaucoup plus d'entraînement de piscine, etc. Bref, donc nous, si on se considère comme des avions de chasse, bon, c'est un peu présomptueux cette histoire-là, mais disons, si on se considère comme des avions de chasse, il faudrait se dire que finalement, on doit être à pleine vitesse à partir du mois d'avril, autour du mois d'avril et du printemps, jusqu'à mois fin octobre, mais que avant et après, eh ben, il faut avoir la phase où on décolle et puis la phase où on va pouvoir atterrir, décoller, atterrir, etc. Et donc, là-dedans, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de décélérer. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire, finalement, en faisant une première petite pause, en ralentissant le volume d'entraînement, en faisant moins de sorties, en diminuant le kilométrage. Et puis, il faut faire une pause réelle. Et puis ensuite, reprendre doucement. Et c'est ce qui va se passer avec une reprise d'abord des exercices PPG, etc. Et puis ensuite, réattaquer sur de la course et puis ensuite faire monter petit à petit l'intensité. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le stress mécanique, sur l'adaptation. On a besoin de faire monter petit à petit le volume d'entraînement pour que le corps s'adapte à ce nouveau volume d'entraînement. Et puis une fois que c'est adapté, hop, on continue comme ça et on monte en volume. On rattaque pas de 0 à 10, à une échelle de 10 d'un coup, on rattaque petit à petit. Et donc il faut un certain temps. Alors au milieu de tout ça, Il se pose une question, c'est de dire, finalement, la pause, combien de temps elle va durer, à quel moment je vais la placer, etc. Et là, c'est là où je tiens compte de la nature, et pourquoi je la fais vraiment maintenant, c'est pour cette histoire de tenir compte de la nature. Là, vraiment, pour revenir sur cette histoire de nature. Les jours raccourcissent jusqu'au 21 décembre. Voilà, ils raccourcissent jusqu'au 21 décembre. Puis ils vont s'allonger. Alors certes, en janvier, vous allez me dire, oui, les jours, ils sont courts. Oui, ils sont courts, mais ils allongent déjà en moyenne 8 minutes 30 par jour. Et à partir de février, ensuite, c'est 3 minutes par jour. Donc ce qui veut dire que notre intérêt, c'est sur les moments où les semaines, où les jours vont être les plus courts, et on va rentrer dans les semaines où les jours vont être les plus courts, soyons honnêtes, hein, décembre et janvier vont être les semaines les plus courts, les jours où sont les plus courts, c'est là où on a intérêt à faire, par exemple, le travail de PPG, travailler en salle, on pourra peut-être pas aller dans les salles, mais faire du travail chez soi, PPG, renforcement, gainage, faire des séances plus courtes, pas des séances où on va partir de courir 2 heures, où on va faire du vélo pendant 3 heures, bon, sauf les jours où il ferait très beau, on pourrait le faire, mais on n'est pas certain, on peut placer plus facilement des petites séances courtes, des petites séances au soleil, par exemple, à midi, etc. Et donc, profiter de ces temps-là. Et puis quand les jours vont s'allonger, etc., ça deviendra plus facile de faire des séances plus longues, et puis le temps va se réchauffer, etc. Et donc, finalement, tout plaide, pour que la coupure, elle arrive là, maintenant. Là, comme ça, là, pam, maintenant. Et je vais vous dire un truc, je vais vous donner un exemple, je vous ai dit que je vous donnerai des exemples. Par exemple, Johan Stuck, qui était venu dans le podcast il y a quelques mois maintenant, lui, bon, il a fait sa pause juste avant, mais là, il vient de sortir de 3 semaines de pause. Voilà, il vient de sortir 3 semaines de pause, il a repris. Donc, c'est-à-dire que lui, il a fait sa pause, ben là, comme ça, sur le mois d'octobre, finalement. Il a fait sa pause au mois d'octobre, et maintenant, il repart sur d'autres objectifs, il prépare son année 2021 à partir de maintenant, et si vous regardez son compte Instagram, vous allez le voir qu'en ce moment, il prend la course, il dit, je fais pas beaucoup de vitesse, etc., parce qu'il faut que je reprenne la vitesse, il s'est remis à faire de la PPG, du gainage, etc. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui font de la pause? Alors, j'ai fait quelques recherches, et je vais vous donner quelques exemples de gens qui font des pauses. Kipchoge, Hein, l'homme qui court, le seul homme à avoir couru le marathon en moins de 2 heures, 3 semaines à un mois de pause, sans course dans son année. Bernard Lagat, hein, qui fait partie aussi des tout meilleurs, 5 semaines sans course, et il dit, j'en prends 5, je ne fais rien, je mange et je joue avec mes enfants. Soyons honnêtes, hein, voilà, là c'est un pro, hein, vraiment, là on est dans le plus rapide. David Rudisha, qui recommande du 800 mètres, prenez lui 6 à 12 semaines complètes off chaque année. Usain Bolt, 4 à 8 semaines de congé. Alors selon son entraîneur, ça dépendait selon des années, si il avait les Jeux Olympiques ou pas, des gros objectifs. S'il n'y avait pas de gros objectifs, il prenait une pause plus longue, parce qu'en fait, il avait besoin de se recharger mentalement. Mentalement, il a besoin de se recharger avant d'attaquer les gros objectifs. Bah oui, on dit Usain Bolt, on se rend pas compte de la préparation mentale, mais aussi de la pression, etc., qu'il avait sur lui pour courir. Et un dernier exemple, Johan Koval, par exemple, qui était champion de France, d'Europe, de 3000 mètres, de steep, de cross, etc., finalise les Jeux de Rio, 5e en finale olympique aux Jeux de Rio, annoncé l'hiver dernier, mais lui plutôt en décembre, qui faisait une pause de 3 semaines. Alors bien sûr, chacun va la placer à peu près où il veut. Alors l'entraîneur Alberto Salazar, qui est pas connu pour ménager plus que ça ses sportifs et qui avait entraîné Mo Farah, mais soyons honnêtes aussi, hein, il a des sportifs, ils sont pas plus blessés que ça. Mo Farah, c'est un sportif qui est pas connu pour avoir été beaucoup plus blessé que ça, et donc il a d'autres coureurs qu'il a suivis comme ça. Alberto Salazar avait cité un jour, il avait dit, nous travaillons sur 2 cycles de 20 semaines, donc cela fait 40 semaines par an. Et vous demandez où passent les 12 autres semaines. Après chaque cycle de 20 semaines, nous avons une période de 2 semaines de repos total, puis nous avons 2 semaines de jogging léger. Cela fait donc 4 semaines de récupération après chaque cycle, puis nous avons encore 2 semaines d'entraînement modéré, puis nous revenons à l'entraînement intensif. Autrement dit, il prend bien le temps d'atterrir, faire une pause, et puis repartir légèrement, etc., remonter, pour ensuite retrouver la vitesse avion de chasse, et quand Mo Farah notamment, quand on parle d'avion de chasse, là on est vraiment dans l'avion de chasse. Et donc, si tous ces pros, si tous ces grandes stars le font, etc., ça serait intéressant aussi de tester. Et c'est pour ça que je vous dis, là maintenant, c'est l'heure pour moi du test. Oui, de tester. Voilà, j'ai trouvé tous mes arguments. Vous voyez, quand je regarde tous ces arguments-là, je me dis, bon bah maintenant, c'est à toi, hein Bertrand, c'est à toi de tester et de voir à toi ce que ça va donner sur toi. Et donc, je suis officiellement en pause. Alors, pendant combien de temps ? J'ai un petit doute, soyons honnêtes, et puis vous m'avez posé des questions, hein, notamment sur Instagram, donc vous m'avez posé des questions. Je dis, dans mon calendrier, ma pause, elle est officiellement jusqu'au 23 novembre, ce qui me ferait une pause de presque un mois. Il n'est pas du tout impossible que je sois sur une pause de 3 semaines. Ça sera une discussion, on va voir comment je me sens, ce que je vais ressentir, etc. En tout cas, est-ce que c'est une vraie pause ? C'est une question qui m'a été posée. Est-ce que je maintiens une activité ? Pourquoi je maintiens pas d'activité ? J'ai décidé de faire une vraie pause complète, sans sport du tout. Vraiment, pas de sport, pas de musculation, pas de PPG, ni rien, hop, pas de vélo, hein. Non, rien, une vraie pause complète pendant les 3 semaines. C'est là où après il y a un petit doute sur la dernière semaine, hein, vraiment, où là on pourrait dire peut-être qu'il peut y avoir une reprise légère, etc., un petit peu anticipée sur comment je me sens, sur comment ça démange, etc. En tout cas, voilà, une vraie pause complète et non pas une réduction, etc., parce que la réduction finalement, elle maintient d'une part l'activité physique du corps, et puis en plus, elle maintient aussi cette espèce de truc mental en se disant « Alors attends, je vais aller courir comme ça, oui mais je peux faire un petit truc. » Donc finalement, l'esprit ne lâche pas totalement la course à pied. Là, il va lâcher totalement le sport. Pas de sport, je vais lâcher. Je vous dirai comment ça se passe, je vous dirai comment je le ressens, je vous dirai ce que j'en pense après, on verra. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Oui, pour répondre à une question que m'a posée John, oui, je continue par contre le yoga. Faire mes étirements tout le matin, faire mon yoga, parce que c'est pas seulement pour le sport que je fais mon yoga, c'est aussi parce que je sens que j'ai plus de souplesse dans le dos. Être plus souple dans le dos, c'est aussi bien mieux, notamment pour être sur sa chaise de bureau toute la journée, c'est bien mieux pour porter ma fille, c'est bien mieux pour porter les courses, c'est bien mieux pour ne pas avoir mal au dos en dormant, c'est bien mieux pour plein de raisons. Donc, tout ce qui est étirement et yoga, oui, ça je le garde. Je garde la cohérence cardiaque aussi, ça fait partie même d'un axe de progrès pour moi, du souffle, c'est-à-dire de mieux contrôler mon souffle. Je vous en reparlerai dans un autre épisode, mais en ce moment, je lis le livre sur la méthode Wim Hof, où vraiment il est sur le froid, le souffle et l'engagement, sur ces 3 notions-là. Et donc sur le souffle, moi c'est quelque chose que j'avais vu avec mon naturopathe, il m'avait dit, bon, on avait fait un test, je respire trop vite, et c'est un truc que Wim Hof dit aussi, je vous avais déjà parlé que mon diaphragme ne fonctionnait pas assez, j'ai une respiration qui est un petit peu trop rapide, une utilisation de l'oxygène, du CO2, enfin voilà, des petits détails comme ça, dont je pourrais vous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, parce que c'est des points intéressants, mais je vais pas faire l'épisode là-dessus. Et en tout cas, ça, là-dessus, c'est sûr que le yoga, la respiration, respiration, la cohérence cardiaque, je vais maintenir ça. Je vais aussi prendre un peu de temps aux soins. Par exemple, je voudrais bien faire une visite chez un ostéo, je voudrais aussi faire une visite chez mon naturopathe, celle-là elle est déjà prévue, pour justement travailler ça, et travailler aussi un aspect par exemple sur l'alimentation, sur la digestion, sur les aliments à privilégier pour avoir l'énergie, etc. Mais aussi par rapport au confort intestinal, vous voyez, des petits trucs comme ça, qui sont aussi importants parce que y a des séances où des fois, le ventre, il tiraille un petit peu, etc. Donc c'est aussi le moment de se dire comment est-ce que je muscle, j'ai envie de dire, mon intestin. Je sais pas si on peut dire vraiment qu'on muscle l'intestin, mais en tout cas, comment on le rend plus fort, à la fois pour l'immunité et à la fois pour finalement mieux supporter ce que c'est la course à pied, ce que nous devons endurer. Parce que quand on court, notre système digestif, d'une part, il met en partie au repos parce qu'il est pas bien, hein, on avait parlé avec Leïla sur le miel, et puis en plus les intestins sont des micro-fissures, donc c'est pour ça que par moment ça nous tiraille, et donc c'est par moment que parfois on a besoin de faire des pauses intempestives qu'on aimerait ne pas faire, et donc finalement, il y a tout un tas de questions qui se posent, etc. aussi, de savoir finalement, c'est comment, quelle alimentation on prend et autres. Donc ça, travailler un petit peu là-dessus, travailler sur cette partie soin. Derrière, ça sera reprise progressive de la course à pied, mais surtout, reprise de tout ce qui est PPG, tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement, tout ce qui est musculation. Je m'étais inscrit en salle de sport, mais on peut pas aller en salle de sport pour faire de la musculation avec des machines pour aller plus fort sur les jambes et aller plus fort sur tout ce qui est dos, tout ce qui est renforcement, etc. Mais bon, je vais me faire un programme, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je vais me faire un programme pour arriver à travailler beaucoup plus ça, les squats, les fentes, tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement, etc. Tout ça, bien travailler ça et ensuite pouvoir reprendre progressivement la course, rattaquer avec des volumes plus importants et donc être arrivé finalement sur le mois de janvier, s'il y a quelques courses, aller chercher quelques dossards sur des courses rapides pour un peu challenger un petit peu le mental, challenger un petit peu l'état d'esprit, le mental et un petit peu aller se pousser un petit peu plus. Puis ensuite, on arrivera autour du mois de février où il sera temps d'attaquer les objectifs de préparation sur, d'une part, le premier marathon de l'année, qui sera le marathon d'Albi, et puis ensuite, on verra comment l'année se déroule, hein, comment ça s'organise. Mais là, vous avez vraiment, maintenant, comment j'ai réfléchi à cette pause et comment j'envisage l'année 2021 qui va arriver dans deux mois déjà, on sera en 2021. Et donc, ça paraît loin comme ça de se dire, oh, déjà l'année prochaine, mais oui, mais finalement, pour intégrer cette pause-là, 2021, c'est déjà demain, donc il faut déjà intégrer la pause dès maintenant. Voilà, donc maintenant que vous savez vraiment tout, je vous l'ai dit, ça clôture la saison 2 du podcast. Alors ça change pas grand chose, hein, soyons honnêtes, ça change pas grand chose. Au départ, quand j'ai commencé le podcast, la saison 1, c'était la préparation de mon premier marathon, marathon de Paris. Une fois que le marathon de Paris a été couru, bon, j'ai attaqué sur un deuxième préparation de marathon qui était le marathon d'Albi, donc la saison 2. Bon, bien sûr, il a pas pu se faire, mais on va attaquer sur une saison 3 qui sera à nouveau Albi, plus la saison qui vient. Mais soyez rassurés, hein, y a pas de coupure, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, je suis à nouveau là. C'est juste que si vous êtes sur Apple Podcast, la numérotation des saisons, vous allez voir, ça va passer en saison 3. Est-ce que je vais changer la jaquette? Est-ce que je vais changer la musique, etc.? Ça, c'est une autre question. Je me pose la question, peut-être pour marquer le coup, on va dire. Pourquoi pas? Mais en tout cas, les deux saisons vont s'enchaîner. Vraiment, il n'y a pas de pause. Hein. C'est juste une changement de numérotation. C'est pas un changement d'état d'esprit non plus, parce que je vais continuer à documenter mon parcours, ma progression, continuer à aller chercher des conseils, de l'inspiration chez ceux qui courent depuis plus longtemps, ceux qui ont d'autres pratiques. J'avais des personnes, notamment, que j'ai invitées, qui se font parler de triathlon, de choses comme ça. On va parler aussi de préparation mentale, on va parler de courses de longue distance, de courses de petite distance, on va parler d'aventures qui ont pu arriver aux uns et aux autres, etc. Vous voyez, on va continuer comme ça, notamment vous donner vous aussi la parole dans les derniers ravitaux, c'est-à-dire vous invitez vous qui écoutez le podcast à venir discuter aussi de comment vous avez vécu certaines courses, etc. Je sais que ce sont des épisodes qui vous plaisent beaucoup, donc là, on va continuer tout ça. Le but, c'est de progresser tous ensemble. Et la progression tous ensemble, elle passe aussi par le développement du Hamsters Running Club, hein, qui est la communauté privée dans laquelle vous pouvez venir vous inscrire. Ne la cherchez pas sur Facebook, elle n'existe pas sur Facebook. Elle est vraiment séparée. Vous avez les liens, un lien dans les notes de l'émission qui vous permet d'aller vous inscrire. Je vous le dis, il y a une application à télécharger. L'application est gratuite. Une fois que vous avez créé votre compte, vous êtes dans un environnement qui est à l'abri des Twitter, des Facebook, etc. Et où il n'y a que nous, que des hamsters. Nous discutons de tous les sujets autour de la course à pied, autour du matériel, autour de l'entraînement, autour de la nutrition, autour de l'organisation, autour de de plein de choses. Il y a aussi les commentaires sur les épisodes. Il y a aussi, des fois, je vous demande votre avis sur certaines choses. Et puis, il y a aussi les encouragements avant les week-ends, les programmes d'entraînement avant les week-ends. Il y a aussi ce qu'on appelle les lundis médailles, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé chercher une médaille ce week-end? Est-ce que vous avez battu un record? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait une belle séance dont vous êtes fier, etc. Vous voyez, tous ces trucs comme ça qui nous encouragent les uns les autres à courir et qui font aussi partie du relais de la motivation. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment la poursuite du podcast. Et puis cette saison 3, c'est aussi pour moi l'accélération. Vous savez, mon projet dont je vous parle, de devenir pro à ma manière, de changer ma vie, de changer de vie autour du running, d'en mettre plus de sport, de devenir sportif professionnel à ma manière, hein, comme je le dis, et ben c'est notamment comme ça que se construisent les partenariats. Donc il y a des partenariats qui sont en train de se construire autour du podcast, autour de mon compte Instagram, et puis il y a aussi le Patreon, je vous rappelle, qui est l'endroit où vous pouvez venir soutenir le podcast financièrement, c'est-à-dire vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode, et vous avez accès à un épisode sans la pub, c'est-à-dire que l'épisode du mercredi c'est sans la pub, sans les pubs au début, à la fin et au milieu, et puis c'est mon journal d'entraînement tous les lundis dans lequel je vous donne les séances que je fais, je vous donne vraiment tous les détails, etc. Mais je vous donne aussi les coulisses où je vous annonce un petit peu les choses en avance. Par exemple, je donne les noms des invités avant, j'explique qui je veux avoir, j'explique un petit peu sur quoi je travaille, etc. Comment j'organise un petit peu les choses, comment je pense un petit peu les choses. Et puis aussi, les épisodes, ils arrivent sans la pub, mais ils arrivent aussi en avance, en général avec une petite journée d'avance. Donc si vous êtes un petit peu pressé, filez sur Patreon. Je vous mets le lien dans la note de l'épisode. Vous pouvez retrouver le lien, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions. C'est même en français et en euros maintenant, ce qui n'était pas le cas au tout début. Donc si vous avez vu à l'époque où c'était en dollars et en anglais, rassurez-vous, maintenant c'est en français et en euros. Et maintenant, je voudrais conclure cette saison 2 par un dernier conseil. Vos objectifs de 2021 se préparent maintenant. Partons du principe donc qu'ils seront maintenus et adoptez une démarche conquérante. Sentez-vous capable d'aller chercher des objectifs qui vous semblent impossibles à atteindre. Ne soyez pas rebuté par la masse de travail et d'entraînement à faire pour les atteindre et nous allons le faire tous ensemble. Ciao, ciao les sportifs!